Cinéscopie, le magazine du cinéma et de la musique de film, c'est tout de suite sur RTF. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'aux alentours de 22h30. Cinéscopie, une émission proposée et animée par Laurent Craven et Chris Lucas. Une émission qui vous parle bien sûr de cinéma. Nous vous parlerons des films que nous avons vus ces derniers jours. Nous vous parlerons bien sûr aussi de l'actualité de la musique de film. Nous écouterons des musiques de film dans cette émission. Et puis, nous consacrerons également un chapitre aux nouveautés sur support physique, Blu-ray, DVD, dans quelques instants. Alors, l'actualité de la musique de film, eh bien, c'est par exemple la présence à Cologne, en Allemagne, de Christopher Young. Il sera présent lors d'un festival consacré à la musique de film, les 16 et 17 juillet prochains. Alors, si vous êtes fan de Christopher Young, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous rendre à Cologne, au mois de juillet. Alors en plus, vous pouvez profiter des vacances justement pour visiter la belle ville de Cologne. La musique de film, c'est aussi, alors ça c'est un petit peu plus tard puisque c'est en mai 2027, la venue à Vienne en Autriche de Danny Elfman qui dirigera l'orchestre, le philharmonique de Vienne, avec donc voilà, ses musiques les plus célèbres, notamment pour Tim Burton. Ça sera donc en mai 2027. Mais d'ici là, en France, il y a aussi des choses très intéressantes qui nous attendent, avec notamment en janvier prochain, un concert Georges Delerue à la Maison de la Radio. Et j'en profite pour vous dire qu'actuellement, Arte.tv consacre le mois de mai à la musique de film avec quelques concerts enregistrés, notamment à Radio France, un concert John Williams, un concert Alexandre Desplat, un concert Lalo Schifrin également. Donc vous êtes gâtés si vous aimez la musique de cinéma en allant sur arte.tv. L'actualité, c'est aussi, bien, nous déplorons la disparition de deux comédiennes. Vous en avez peut-être entendu parler. Chantal Nobel, qui nous a quittés. Alors, on s'en souvient surtout pour sa prestation dans ce feuilleton des années 80, Château-Vallon. Château-Vallon, qui a bénéficié d'une musique de Vladimir Cosma et d'une chanson interprétée par Herbert Léonard. D'ailleurs, très réussie. On oublie que quand même, il y avait quand même un très bon score de Cosma. Et puis, la voix, quand même, exceptionnelle d'Herbert Léonard. Chantal Nobel nous a quittés, mais également Claire Maurier, qui a eu une longue carrière, mais du coup, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. L'actualité du cinéma, c'est aussi à Limoges, et bien très prochainement, le vendredi 29 mai, une soirée Serial Killer. Ouh là là, attention, avec la projection à partir de 19h30 de Seven, le film de David Fincher, film que David Fincher réalise en 1995, avec dans les rôles principaux Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow. Un film qu'on ne présente plus, mais qu'on aura plaisir à redécouvrir en salle, au Lido. Et cette projection de Seven sera suivie à 22h de celle du Silence des Agneaux, film réalisé en 1991 par Jonathan Demme avec Anthony Hopkins, Jodie Foster et Scott Glenn en tête d'affiche. Le Silence des Agneaux est là aussi un film devenu culte et qui a engendré d'ailleurs pas mal de suites. D'ailleurs, avant le Silence des Agneaux, le personnage d'Hannibal Lecter avait était apparu dans un film de Michael Mann qui s'appelait Sixième Sens, avec William Petersen, me semble-t-il. Voilà, donc réservez votre soirée le 29 mai, le vendredi 29 mai, à partir de 19h30, au Lido, avec ces deux films Serial Killer, Seven et Le Silence des Agneaux. Ça, c'est vraiment intéressant. Et alors, le 28 mai, juste avant, il y a une avant-première assez passionnante, toujours au Lido, à 20h30, la projection du film Francesca et Giovanni, film réalisé par Simona Izzo et Ricky Tognazzi, qui raconte le couple formé par Francesca Morvillo et le juge Falcone. Voilà, donc Francesca Morvillo était elle-même magistrate. Et elle défendait les mineurs recrutés par la mafia. Et elle militait pour leur offrir un avenir en dehors de la pègre, bien sûr. Et elle a rencontré donc Falcone et pendant 10 ans, ils ont œuvré ensemble pour libérer Palerme de la Cosa Nostra jusqu'en 1992, où il succombe à un attentat, vous le savez. Et voilà, c'est vraiment un film qui s'avère vraiment passionnant. Francesca et Giovanni, ça sera proposé en avant-première, le jeudi 28 mai à 20h30, en partenariat avec l'association Dante Alighieri. Voilà, ces quelques news pour commencer cette émission. Alors, oui, on s'excuse, c'est vrai qu'on est absent déjà depuis 2 semaines, et pour des raisons techniques indépendantes de notre volonté, il faut bien le dire. Alors, vous nous avez manqué, il faut bien le dire, et on s'est dit, on revient vers vous ce soir, avec un générique un petit peu différent, vous l'avez noté, parce que là aussi, pour des raisons techniques, nous n'avons pas pu vous diffuser notre générique habituel. Mais enfin, le générique qu'on vous a diffusé à l'instant, c'était un de nos premiers génériques, parce que c'est une émission qu'on a commencé dans les années 80. Mon cher Laurent, ça ne nous rajeunit pas.
Oui, bonsoir. C'est vrai que ça ne nous rajeunit pas. On prend un sacré coup de vieux quand même.
Donc, du coup, on lançait l'émission avec cette musique composée par Alan Silvestri une série B d'action qui s'appelle Delta Force. Voilà. On l'avait d'ailleurs passée il n'y a pas longtemps en hommage à Chuck Norris.
Tout à fait. Et là, pour le coup, c'est un peu de la nostalgie, on va dire, pour nous. Ça nous fait remémorer quand même de très très bons souvenirs qu'on a pu passer toutes ces années au sein de d'RTF.
Voilà. Exactement. Donc, on continue.
Oui.
Et on fêtera peut-être les 40 ans de l'émission l'année prochaine. Mine de rien. Bon, cher Laurent.
Ça va se fêter, ça.
Ah, oui, ça, forcément, ça va se fêter. Alors, donc, on commence l'émission peut-être par de la musique de film.
On va pas changer nos habitudes.
Non.
Et donc, à travers un film, 2004.
Alors, des indices quand même, parce que là...
Super production. Et là, pour le coup, on va écouter la musique de ce film, mais pas la musique, en fait, qui a été retenue, parce qu'il y a eu aussi une partition qui a été rejetée par un compositeur... ça avait été composé par un compositeur français. C'est James Horner qui a signé, le score qu'on peut entendre en fait dans le film, mais c'est pas la partition qu'on va vous proposer ce soir. C'est le score qui a eu au moins l'avantage de pouvoir sortir à l'époque, même si cette partition n'a pas été retenue pour cette super production.
C'est bien dommage.
Tout à fait. Et vous allez pouvoir en avoir la preuve dans quelques instants. C'est une partition magnifique. Et c'est vrai que, sans jugement et critique par rapport à James Horner, parce qu'on l'apprécie particulièrement. Mais là, en tout cas, la partition composée par Gabriel Yarod était vraiment magnifique. Et c'est pas parce que c'est un compositeur français, mais franchement, on comprend aussi, que c'était peut-être pas du ton et de l'attente, en fait, des producteurs du film. Ce film réalisé par Wolfgang Petersen.
On va donner des indices parce que c'est quand même en lien avec un film qui va sortir au mois de juillet. Alors, si je vous dis que c'est le film qui sort au mois de juillet, on va commencer par là. C'est un film qui s'appelle L'Odyssée, le nouveau film de Christopher Nolan. Avec des acteurs, une pléiade de vedettes. L'Odyssée adaptée, bien sûr, de l'œuvre d'Homère. Et justement, L'Odyssée raconte. Ce qui est arrivé à Ulysse et à son équipage après des événements qui sont décrits par le film dont on va tenter de trouver le titre.
Voilà, alors nous avons au casting Brian Cox.
Brian Cox, okay. J'adore cet acteur, j'ai eu la chance d'ailleurs d'en rencontrer en vrai, et justement, il est passionnant.
Rose Byrne.
Ah bah oui, magnifique.
Qui joue le rôle de Briseis.
Tu donnes un bon indice là, déjà.
Sean Bean, jouait le rôle d'Ulysse.
Ah oui. Alors c'est pas lui qu'on retrouve chez Nolan.
Diane Kruger, qui joue le rôle d'Hélène.
Je dois dire que dans la version de Christopher Nolan, c'est Lupita Nyong'o qui jouera le rôle d'Hélène.
Eric Bana, qui joue le rôle d'Hector.
Là, ça se précise quand même.
Et pour terminer, on va dire qu'il y avait aussi Brad Pitt qui jouait le rôle d'Achille.
Eh oui.
Avec son tendon d'Achille, comme on dit.
Exactement. Et quand tu parles d'Ulysse, on parle aussi de sa ruse.
Oui.
Avec son fameux cheval.
Oui, cheval.
Donc je crois que là...
Cheval, comment, de cheval de Troie ?
Me semble-t-il.
Voilà, donc on va écouter cette musique superbe. Alors, on ne veut pas vous le proposer sous forme d'original, hein, parce qu'on a aussi le score original. Alors,
on l'a, mais comme on peut dire dans une version pas vraiment plutôt officieuse, on va dire.
Voilà.
Ouais, disons cela.
Et là, on va l'écouter à travers donc, un album. Qui en fait est un hommage au compositeur de musique de film, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Bruxelles, dirigé par Dirk Brosset, au sein bien sûr de l'association du Festival du film de Gand. On vous en parle assez régulièrement parce que on y va quasiment tous les ans maintenant.
Ouais, maintenant, ça devient un rendez-vous annuel. Ouais,
nous sommes en fait quasiment des membres, on va dire.
Ah oui.
On connaît d'ailleurs assez bien l'ami Dirk Brosset.
C'est vrai,
on salue d'ailleurs au passage.
Oui, on a eu l'occasion de converser avec lui à chaque fois. Très très sympathique d'ailleurs.
Tout à fait. Et donc, on va écouter eh bien, cette suite musicale concernant le film 3. Parce qu'on n'avait pas donné le titre. Donc, c'est ce film réalisé par Wolfgang Petersen en 2004, et on se retrouve dans 5 petites minutes pour bien vous parler et bien des nouveautés à la vidéo, parce que bon, forcément ça commence un petit peu à s'agiter, parce que le mois de juin est un mois assez normalement riche en sorties, comme le mois de septembre. Voilà, ça, c'est des, on va dire, des misses, c'est la fin d'un semestre. C'est là où, en fait, les éditeurs proposent pas mal de titres, parce que tout simplement, c'est pas pour l'été, c'est surtout que au mois de juin, il y a la fête des mères, fête des pères, fin mai, là, début juin. Et donc, ça peut être un beau cadeau pour récompenser la personne que vous désirez. Et septembre, c'est pour annoncer les fêtes de fin d'année. Donc il faut grossir le catalogue des sorties. Donc tout de suite, la musique de Troyes et tout de suite après, la rubrique vidéo.
bien, c'est maintenant l'heure de l'actualité du support physique. Voilà, quels sont les DVD, les Blu-ray que vous pouvez vous procurer, ceux que nous jugeons en tout cas dignes d'intérêt. Alors, on va commencer par un documentaire français, Le Chant des Forêts, un film réalisé par Vincent Munier. Dans ce film, un vieil homme, son fils et l'enfant adolescent de ce dernier partent à la découverte de la faune et de la flore du massif vosgien. Voilà, c'est le nouveau film de Vincent Munier qui s'était fait connaître avec La Panthère des Neiges. Vous devez vous rappeler de ce très très beau film. Alors c'est peut-être un film un petit peu moins fort, néanmoins c'est quand même une réussite d'ailleurs. Il a obtenu le César du meilleur documentaire et le César du meilleur son. Et ça c'est vraiment amplement justifié. Dans ce film, alors qui vous est proposé dans une copie magnifique, hein, voilà, les séquences nocturnes sont parfaitement lisibles. Tout cela est nickel chrome. D'un point de vue technique, il n'y a rien à redire. Voilà. Très très beau documentaire animalier, Le Chant des Forêts, qui est paru dans une édition collector Blu-ray DVD. C'est un combo chez Blackout. Voilà, donc c'est disponible, hein, c'est dans les box. Et puis je vous rappelle que la musique de ce film est signée Warren Ellis quand même. Donc bah, ils ont fait appel à du beau monde pour réaliser ce film, Le Chant des Forêts. Voilà, donc on vous le conseille évidemment fortement dans notre émission. Alors on continue cette fois-ci avec un film qui très certainement en ce qui me concerne est un des meilleurs films de l'an dernier. C'est L'Agent Secret, film de Kleber Mendoza Filho. Un film qui nous plonge en 1977 dans le Brésil de la dictature. On suit un personnage, il s'appelle Marcello, interprété par Wagner Moura. Marcello débarque à Recife en plein carnaval, officiellement là pour retrouver son fils. Cet homme au passé trouble tente de se reconstruire une vie. Voilà, donc c'est vraiment un film très fort qui emprunte un petit peu à tous les genres, le thriller, le film d'espionnage, la comédie aussi. C'est aussi un hommage au cinéma. Alors, il y a plein de choses. C'est un film assez dense, assez riche, et merveilleusement interprété par Wagner Moura, qui c'est pas une révélation parce qu'on l'avait déjà vu ailleurs, mais là il est exceptionnel, il porte vraiment le film. Voilà, un film néo-noir vraiment magistral qui a obtenu d'ailleurs le Golden Globe, hein, d'ailleurs je précise, et c'est Ad Vitam qui vous propose ce film dans une version Blu-ray DVD. Là aussi il y a une édition spéciale enseigne, hein, également avec une version ultra haute définition, donc vous pouvez découvrir le film en Blu-ray 4K dans une édition collector qui vous propose également 5 affiches alternatives du film en carte postale. Voilà, donc c'est un film, franchement, si vous ne l'avez pas vu, allez-y foncer, L'Agent Secret, vous ne serez pas déçus. Alors, une réédition, mais dans une version restaurée en 4K, c'est le film de Akira Kurosawa, Entre le ciel et l'enfer. Alors, pour faire plaisir à Laurent, je peux lui préciser le titre japonais, Tengoku to Jigoku. Voilà, celui qui aime bien les titres originaux, surtout asiatiques. Hein, donc, Entre le ciel et l'enfer est un thriller dramatique réalisé par Kurosawa, avec dans les rôles principaux Toshiro Mifune et Tatsuya Nakadai. Un film centré sur un industriel confronté à l'enlèvement d'un enfant. Alors d'abord, il croit que c'est son propre fils qui a été enlevé, mais en fait, c'est le fils de son chauffeur. Donc évidemment, dès qu'on comprend que c'est le fils du chauffeur qui a été enlevé, les enjeux ne sont plus tout à fait les mêmes. Voilà, donc les enjeux moraux sont au centre de ce film, Entre le ciel et l'enfer, qui vous est proposé dans une édition collector Digipack. Alors vous avez le film donc en Blu-ray 4K, un jeu de 12 photos, une carte postale de l'avant-première japonaise, un marque-page, un sticker, une affiche, voilà, pas mal de goodies, hein, dans ce coffret qui vous est proposé par Carlotta Film. Et voilà, dans une édition, alors là, techniquement remarquable. Si vous ne connaissez pas ce film de Kurosawa, foncez. Je crois savoir que c'est le film, un des films préférés de Park Chan-wook, vous savez, qui est président du Festival de Cannes cette année. Et quand on lui a demandé quel était son film préféré de Kurosawa, il a désigné ce film Entre le ciel et l'enfer. On aurait pu penser que, je sais pas, il désigne Ran ou encore Les Sept Samouraïs. Mais non, c'est celui-ci. Voilà. Donc, découvrez ou redécouvrez Entre le ciel et l'enfer chez Carlotta dans une superbe édition. Alors, changeons de style maintenant avec cette fois-ci un film fantastique proposé par l'éditeur L'Atelier d'Images. C'est The Mist, réalisé par Frank Darabont avec dans les rôles principaux Thomas Jane et Marcia Gay Harden. Alors, c'est un film qui raconte l'histoire d'un groupe de survivants piégés dans un supermarché après l'apparition d'un brouillard mystérieux peuplé de créatures. Voilà, un film inspiré de Stephen King. Vraiment, c'est un film magnifique, que ce soit en termes de mise en scène, en termes aussi de photographie. Franchement, là, le chef opérateur a fait un travail magnifique. Et c'est un film avec une fin. Alors, je vais pas spoiler, mais enfin, vous serez, voilà, c'est une fin terrible. Voilà, mais j'en dis pas plus. Donc, vous avez une édition avec deux disques, le Blu-ray standard et le Blu-ray haute définition. Et je vous conseille franchement, si vous ne le connaissez pas, de découvrir The Mist. À mon avis, c'est une des meilleures adaptations de Stephen King au cinéma. En tout cas, c'est un excellent film à découvrir. Et puis je termine par un thriller un peu plus modeste dans ses ambitions, mais enfin quand même plutôt réussi, un film espagnol, Los Tigres. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé, peut-être on a dû parler de Los Tigres ou à Laurent qui acquiesce, mais je vous rappelle l'apparition de ce titre, un film d'Alberto Rodriguez avec Antonio de la Torre, Barbara Leni et Joaquin Núñez dans les rôles principaux. Frères et sœurs Antonio et Estrella travaillent depuis toujours comme scaphandriers dans un port espagnol sur les navires marchands de passage. En découvrant une cargaison de drogue dissimulée sous un cargo, eh bien Antonio pense avoir trouvé la solution pour résoudre ses soucis financiers. Eh bien oui, on va voler une partie de la marchandise et la revendre. Ça semble simple sur le papier, et vous verrez que c'est le début d'une spirale infernale. Los Tigres, film espagnol avec des séquences sous-marines assez réalistes, hein, qui sont assez passionnantes. Voilà, j'en ai fini pour ma petite sélection de ce soir. Je voulais peut-être, je ne sais pas si on en avait parlé, évoquer la réédition en Blu-ray 4K de Halloween 4, le film réalisé par Dwight H. Little. On retrouve toujours Donald Pleasance, toujours dans le rôle du Dr. Loomis, à la poursuite de Michael Myers. Et alors c'est un film Halloween 4, le retour de Michael Myers. C'est un film un peu mal aimé, mais moi je lui trouve quand même pas mal de qualité. Je trouve que Dwight Little réussit sa mise en scène dans l'ensemble. Il y a un très beau travail sur la photographie. Et puis, on découvre une jeune actrice que je trouve vraiment exceptionnelle. Elle s'appelle Danielle Harris. Elle joue également dans Halloween 5. Franchement, rien que pour elle, vous devez acheter ce Halloween 4, surtout en ultra haute définition. Et puis, ceux qui sont un peu chanceux, ceux qui habitent sur Paris, pourront rencontrer le réalisateur d'Halloween 5 samedi prochain. Il s'agit de Dominique Ottonin-Girard, qui dédicacera à la boutique Metaluna, 7 rue Dante à Paris, son film Halloween 5. Alors ça, c'est paru, tous ces films, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est BQHL qui vous propose la réédition en ultra haute définition de Halloween 4 et Halloween 5. Voilà, donc en tout cas, moi personnellement, mon petit préféré, c'est Halloween 4 avec Donald Pleasance, Ellie Cornell et la magnifique Danielle Harris. Je sais pas quel âge elle a, mais moi quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais on aurait dû lui donner l'Oscar. Elle est tout à fait incroyable dans ce film. Voilà, en tout cas, il y a une très belle copie, hein. Le transfert Dolby Vision est de toute beauté. Les noirs sont profonds, la lisibilité excellente, même sur les séquences de nuit. Donc vous pouvez foncer. Il y a, moi, je suis un petit peu déplu quand même dans ce Halloween 4, c'est le masque dont s'affuble Michael Myers. Je trouve le masque pas très réussi. On se demande pourquoi ils ont changé de masque. Bon, y a peut-être eu des... Voilà. problème de copyright sur le masque, j'en sais rien. C'est vrai que sur Halloween 5, Halloween 4 et Halloween 5, le masque me semble un peu moins effrayant. Bon, c'est juste un petit bémol. Voilà, et bien je me tourne vers Laurent après cette petite sélection de films sur support Blu-ray, DVD. Et il est aux manettes, tu vois, il est en train de caler les platines. Il fait un travail de fou, c'est incroyable. On dirait qu'il a le don d'ubiquité, hein, de faire plusieurs choses en même temps. Alors, quelle est ta sélection de ce soir, mon cher Laurent?
Assez éclectique, on va dire. Alors, on va commencer par un polar dramatique, film de Sidney Pollack, qui est peut-être passé inaperçu hein, en DVD et Blu-ray, avec Sidney Poitier, Anne Bancroft, Telly Savalas. C'est 30 minutes de sursis. Ou the Standard Thread. La musique est, au passage, est signée Quincy Jones pour ce film réalisé en 1965. C'est l'histoire d'un étudiant en psychologie de permanence dans un centre téléphonique pour personnes en détresse qui tente, en la gardant en ligne, de localiser l'appel d'une femme ayant absorbé une dose mortelle de barbiturique. Ça vous rappelle quelque chose? Parce qu'il y a eu pas mal de films là ces derniers temps. Peut-être pas exactement avec le même synopsis, mais avec des bombardements et une enfant qui était coincée sous les décombres et qui appelait à l'aide. Et donc voilà,
c'est une sorte de huis clos. Aussi The Guilty également, avec le policier qui est en ligne avec une femme apparemment kidnappée.
Voilà. Et donc là, c'est son premier long métrage à Sidney Pollack qui réalisa donc un quasi coup de maître dans cette course contre la montre effrénée, parcourue de flashbacks grâce à une étonnante mise en scène, attentive sur le moindre détail et adaptant son montage au rythme de séquences intimes touchantes qui ne font pas pour autant retomber l'attention. Donc c'est vraiment un inédit de grande qualité qui est proposé par Rimini Édition. Donc comme quoi il y a encore, je dirais, de la nouveauté dans les fonds de catalogue. Et donc ça, c'est plutôt une excellente surprise de voir débarquer ce film en support physique. Donc, avis aux amateurs. Moi, le premier, hein, je pense que je vais peut-être me laisser tenter.
Il y a des bons arguments, quand même. Pollack, Poitier, Bancroft et la musique de Quincy Jones, quand même. C'est superbe.
Autre film, cette fois-ci un film britannique, film dramatique de Tony Garnett dans la collection Make My Day, film qui est déjà paru en édition combo avec Karen Young, pardon, Clayton Day et Suzy Humphreys. La musique est signée Mike Post, film interdit au moins de 12 ans. Le film s'intitule Handgun, l'histoire d'une jeune prof d'histoire qui est courtisée par un avocat à première vue bien sous tout rapport, mais dont le comportement à son égard va la transformer du tout au tout. Et donc, c'est un film qui a disparu des écrans depuis au moins 4 décennies, et ce premier long métrage hollywoodien du réalisateur britannique évite soigneusement les écueils de la complaisance et de l'apologie de la justice personnelle grâce à une mise en scène très consciente de son message, précise et parlante quant à la prépondérance des armes à feu et à leur utilisation dans la culture d'une Amérique déjà en proie au courant survivaliste, raciste et nationaliste, et bien sans oublier une séquence implacable de surréalisme où le bourreau culpabilise en toute légitimité et bien pensante sa victime. Voilà, donc franchement, édité, parce que la collection Make My Day, c'est l'éditeur Studio Canal, et donc c'est déjà paru dans une très très belle copie pour ce film qui est enfin moyennement récent, parce que 1982, il y a quand même pas loin de 25 ans.
C'est amusant de voir Mike Post au générique, puisqu'en fait, lui, on s'en souvient surtout pour ses génériques de séries télé.
Eh oui.
Mais ce qui prouve que c'était un excellent compositeur, hein, Mike Post. Ah, c'est vrai qu'il a fait surtout carrière à la télé, finalement.
Ouais, c'est vrai. On reste dans le drame. Et là, pour un film français, mais qu'on avait vu d'ailleurs sur le grand écran, un film encore dramatique de Thomas Kuitoff, avec Virginie Efira, Arié Voltalter et Justine Lacroix. Film de l'an dernier, ça s'intitulait « Les braises ». Et donc, ça racontait l'histoire d'une ouvrière d'usine assoiffée de justice sociale et d'égalité qui s'engage dans le mouvement des Gilets jaunes contre la vie de son compagnon. Et donc, sans égaler le coup d'éclat de son précédent film, « Les promesses », eh bien, Thomas Kuitoff s'aventure à nouveau sur le terrain du politique, cette fois sous l'angle de l'engagement citoyen. Et donc, si les deux interprètes principaux forment un couple relativement crédible, tiraillé par les événements avec une scène de manifestation parisienne criante de vérité, eh bien, certains dialogues et lourdement démonstratifs et le sentiment de ne rien apprendre de plus face aux documentaires sur le sujet laissent un arrière-goût d'inachevé, c'est un petit peu peut-être le seul dommage de ce film. Mais malgré tout, le jeu des acteurs est quand même relativement sans faute. Et ça vaut le coup d'être au moins vu. C'est édité exclusivement en DVD et on le doit à l'éditeur Wildside. Autre film. On va faire un petit balayage, de fond de catalogue. Alors, un film qui est, à mon avis, un grand succès du support physique, ponctuellement chez l'éditeur Sidonie, il y a des éditions qui partent très très vite. On ne sait pas pourquoi. Et donc là, ça a été le cas pour le film Life Force de Tom Hooper.
On a eu du mal à le choper, celui-là.
Voilà. Et on dirait que pour ce film-là, c'est un petit peu pareil. C'est qu'en fait, peut-être que l'éditeur ne croyait pas l'engouement en fait de ce titre. Et donc, je crois qu'il est assez difficile à trouver, alors qu'il est déjà paru depuis le début mai, en fait. C'est un film policier réalisé par Robert Butler, avec Josh Brolin, Cliff Gorman et Richard Castellano. La musique est signée Artie Kane, film interdit au moins de 12 ans, film réalisé en 1979, c'est Night of the Juggler ou New York Connection. C'est l'histoire d'un flic poursuivi par un ancien collègue revanchard, révoqué, qui tente de retrouver sa fille, enlevée par un sociopathe qu'il a confondu avec une gosse de riche. Et donc, démarré par Sidney J. Fury, avant d'être remplacé suite à son départ volontaire, eh bien ce polar urbain, effréné, particulièrement intense, restitue avec un sens assez exceptionnel de la composition, des plans et du montage, la confusion et le délabrement où était alors plongé New York, à commencer par une faramineuse course-poursuite en voiture dans Central Park. Inédite jusqu'à ce jour, cette pépite sans filtre était sortie en salle en 1980 sous le titre Fort Bronx. Voilà. C'est une édition combo. Distribué par Sidonie, avec des petits bonus quand même au passage, avec une présentation comme à l'accoutumée du spécialiste Olivier Père, qui ironise d'ailleurs sur le titre original français, et des substantiels entretiens récents avec James Brolin et la comédienne Julie Carmen. et un très bon module sur la contribution de l'autre metteur en scène, Sidney J. Fury, avec la bande-annonce, et aussi un petit livret qui accompagne en fait ce titre de 24 pages à peu près. Donc voilà, donc vraiment c'est une belle édition que propose Sidoni. Alors qu'en est-il de l'aspect technique? Eh bien ma foi, pour ce film qui est relativement ancien, hein, parce qu'on est à la fin des années 70, eh bien la restauration est plutôt, je dirais, réussie, même si au générique de départ, il y a quand même pas mal de granulations, mais après ça rentre dans ça l'ordre. Mange. Voilà, ça s'arrange. Et puis pour en terminer, un autre film policier, cette fois-ci de 1962, film allemand. Le titre original, Das Gasthaus an der Themse.
Alors là, je n'ai pas fait d'allemand, donc je ne traduirai pas du tout ce
titre. Alors c'est un film réalisé par Alfred Vohrer avec Joachim Fuchsberger, Elisabeth Flickenschild, et aussi on y retrouve, et là c'est plutôt une surprise, Klaus Kinski.
Ah oui.
Alors le titre français.
Oui, donnons le titre français.
Quel est-il? Eh bien, le requin harponne Scotland Yard.
Ah oui, en effet. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec le titre original finalement. Je ne suis pas certain.
Et ça raconte quoi en fait ce film? Quel est le pitch? Eh bien, c'est l'histoire d'un inspecteur de Scotland Yard. Alors déjà, bon, voilà, il y a quand même un rapport. Qui traque sans relâche un mystérieux tueur en série qui élimine consciencieusement ses victimes avec un fusil harpon. Et donc, bien malin qui devinera l'identité du pirate de la Tamise, tant ce polar allemand peuplé de personnages interlopes s'amuse à brouiller les pistes. Et dommage que l'enquête soit parasitée par les pitreries ineptes d'un policier prêt à littéralement mouiller la chemise pour débusquer le tueur, et par l'attirance tout aussi facultative de l'inspecteur pour une jeune serveuse. Mais voilà, c'est quand même assez cocasse et singulier de découvrir ce film que on n'a pas eu l'occasion de voir sur, au moins sur le petit écran. On le doit à LCJ Édition qui nous le propose. Là, par contre, exclusivement en DVD, forcément, il n'y a pas eu... il y a une restauration, mais bon, voilà, ça aurait peut-être mérité peut-être un petit peu de haute définition, tant que ce film, même s'il n'est pas majeur, eh bien, on puisse le voir dans une qualité optimale. Voilà.
Oui, je me tente à une traduction du titre allemand, même n'ayant jamais fait allemand, mais je me dis peut-être le titre original, ça veut dire l'auberge de la Tamise, hein, puisque Das Gasthaus, ça doit vouloir dire l'auberge, hein, je pense.
Oui,
An der Themse, c'est la Tamise, je pense.
Ou alors peut-être le pirate de la Tamise.
Alors voilà. Bon, écoutez, voilà.
On va rechercher.
Voilà, c'est ça. Bon, merci Laurent pour cette belle sélection. Alors, il y a d'autres titres qui sortent actuellement. On vous en parlera peut-être un petit peu plus la semaine prochaine. Notamment HK Video qui continue sa redécouverte de John Woo avec l'apparition d'une balle dans la tête dans un très beau coffret. Mais on vous en parlera. Mais de toute façon, c'est un incontournable de John Woo.
C'est déjà sorti. Hein.
Voilà, on peut se le procurer dès à présent. Voilà. Eh bien, il est l'heure peut-être de faire une petite pause à ce stade de l'émission, une petite pause musicale, bien évidemment. On va écouter de la musique de film. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, il y a aussi l'apparition en Blu-ray DVD de 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. On vous en parlera peut-être aussi. On a plus ou moins aimé le film. Hein. C'est vrai que on va dire que on a trouvé comme que la mise en scène, la photo, c'était pas mal. C'est assez violent aussi. C'est quand même peut-être plus violent que le précédent. Mais bon, la fin nous a laissé, enfin, en tout cas, m'a laissé un peu perplexe quand même. Voilà, bon. Voilà, quelques bémols. Mais bon, on en reparle. Alors, oui, Laurent.
Voilà, on va clarifier. C'est l'auberge sur la Tamise.
Ah, tu vois, sur la Tamise. Hein, ouais. C'est pas l'auberge de la Tamise, c'est l'auberge sur la Tamise. Bah, j'étais pas loin, hein, quand même.
T'es fin prêt pour aller à Vienne. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de concerts là-bas. Donc,
Ah oui, bah, cette année, on a eu Patrick Doyle. L'an prochain, Danny Elfman. Bah, voilà, on va réfléchir à la question. Petite pause musicale, mon cher Laurent, que nous as-tu concocté au mi-temps d'émission ?
Eh bien, un titre magnifique. Oui. Enfin, une musique magnifique. C'est difficile de parler de ce compositeur tellement il m'enchante dès le début de sa carrière. Compositeur français. Mais bon, vous l'avez tous trouvé parce qu'on en parle assez...
C'est régulièrement.
Régulièrement. Et on en a parlé en début d'émission par rapport à un concert qui s'annonce début 2027.
Voilà. Eh oui.
En hommage à ce compositeur. Concert d'ailleurs qui aurait dû avoir lieu l'an dernier.
Eh oui, tout à fait, l'an dernier. Ouais.
Et dont on a raté, en fait, du fait voilà, d'un imprévu. Dans la série de concerts de musique de film de Radio France, et donc qui a été déprogrammé et reprogrammé fin janvier 2027. Donc, on est dans les starting blocks hein, pour essayer voilà, d'y assister.
Ah, oui. Ah ben là, oui.
Et donc du coup, eh bien, on va écouter la musique d'un film composé par Georges Delerue. Et donc là, pour le coup, c'est un film qui date de 1989 sur sa période outre-Atlantique. Sur le label Varese Saraband, au plus haut de son sommet, hein, ce label proposé, en tout cas. Trois volets consacrés à Georges Delerue et non des moindres. Mmh. En tout cas, si vous voulez faire découvrir l'univers de Georges Delerue, je crois que c'est une porte d'entrée assez facile et assez lisible, je dirais, pour découvrir ce compositeur. C'est Les Sessions de Londres. Il y a trois volumes chez Varese Saraband. Bien sûr, il faudra chiner pour les trouver, hein, ces volumes, mais en tout cas voilà, c'est vraiment de très très beaux enregistrements enregistrés par le biais de l'Orchestre Symphonique de Londres, hein, avec à la direction
Georges Delerue, hein, Georges Delerue,
okay. il y a Georges Delerue, mais pas que James Fitzpatrick aussi.
Oui, c'est vrai. Mais alors, c'est vrai que dans l'ensemble, c'est Georges Delerue. Et puis, il y a titres.
Qu'en fait, Georges Delerue joue du piano. Aussi, et donc, en particulier, il y a un hommage à François Truffaut où, il est au piano. Donc, forcément, il ne peut pas diriger l'orchestre.
Ouais, c'est magnifique, hein, quand même.
Voilà. Ouais, et donc, on va écouter l'extrait de ce film réalisé en 1989. C'est Style Magnolia ou Potin de femme. Avec à la distribution, eh bien, on y retrouve Robert Harling, Sally Field, Shirley MacLaine, Dolly Parton, Daryl Hannah et aussi Julia Roberts.
Voilà. Sacrée distribution.
Et donc, le thème est vraiment magnifique. Et comme on apprécie particulièrement Georges Delerue, eh bien, on vous propose 8 minutes de Potin de femme. Voilà.
Eh ben, voilà, quand on aime, on ne compte pas, vous allez voir, c'est sublime. sublime partition de Georges Delerue pour ce film, Style Magnolia, Potin de femme. Voilà, on adore Georges Delerue et on est très impatients de le retrouver en concert à la Maison de la Radio en janvier 2027. Eh bien, c'est l'heure de vous parler des sorties de... pas forcément des sorties de la semaine, en tout cas des films que nous avons vus ces derniers jours. À savoir, ce soir, nous allons vous parler de Obsession, le film de Curry Barker avec Michael Johnston, Indy Navarrete. C'est quoi l'amour? Film de Fabien Gorgeard avec dans les rôles principaux Laure Calamy, Vincent Macaigne, Mélanie Thierry, Vivaldi et moi, film réalisé par Damiano Micheletto. Et enfin, nous vous parlerons de Suquan Island, réalisé par Vladimir de Fontenay. Alors parlons peut-être tout de suite du film qui fait la une de Mad Movies et qui finalement fait l'objet de plutôt bonnes critiques dans l'ensemble. C'est le film Obsession, réalisé par Curry Barker. Jeune réalisateur, Curry Barker, parce qu'il n'a que 26 ans. Mais en tout cas, il fait le buzz actuellement avec son film Obsession. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Bear. C'est un jeune homme timide, plutôt introverti, amoureux depuis des années de la belle Nikki. Mais par manque de confiance en lui, il ne parvient pas à lui avouer ses sentiments. Et voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il va trouver dans une boutique une petite boîte avec. C'est une sorte de. À l'intérieur, il y a un bâton prétendument magique. Et lorsque on casse le bâton en deux, ce bâtonnet en deux, on peut faire un vœu. Et normalement, ce vœu doit se réaliser. Alors, eh bien voilà, Bear décide de faire un vœu. Et son vœu, c'est que Nikki l'aime plus que tout au monde. Et ben ce vœu, ça va marcher, ça va même plutôt bien marcher au-delà de toutes ces espérances, puisque effectivement Nikki va se mettre à l'aimer mais de façon obsessionnelle. Et c'est vrai que c'est un film qui parle de voilà à nouveau peut-être aussi de l'amour toxique, de l'emprise que l'amour peut exercer sur un de ses membres. Alors, Obsession, c'est un film un petit peu. Alors moi, il y a pas mal de louanges autour de ce film. En ce qui me concerne, je suis un petit peu plus mitigé. Alors, le film commence de façon un petit peu curieuse, à la façon des films indés. C'est-à-dire que on a l'impression de voir un pastiche, en fait, je crois d'ailleurs que c'est voulu par Curry Barker, un pastiche des films indés, format carré, photographie terne, quasiment monochrome. À savoir d'ailleurs que le format du film va changer au fur et à mesure de l'histoire. C'est un format plutôt carré au départ, puis qui va s'élargir, qui va à nouveau se réduire. Alors, je demanderai à Laurent, parce qu'il a vu le film aussi, est-ce qu'il n'y a pas une certaine gratuité dans ces changements de format? Moi, j'en ai pas vraiment vu l'utilité. Donc, le côté un petit peu pastiche du film indé américain, ça, c'est plutôt pas mal, finalement. Pourquoi pas? Ça donne un ton au film qui est intéressant. Alors, après, il y a quand même d'autres problèmes. Il y a quand même la photographie, effectivement. Alors, cette photographie, moi, je l'ai trouvée terne. J'ai trouvé ça très moche, hein, pour rien de vous cacher. Donc, moi, j'ai pas du tout aimé la photo du film. C'est un choix artistique. Disons que je n'ai pas du tout aimé la direction artistique du film. Voilà. Ensuite, il y a des problèmes quand même de scénario. Le scénario, je trouve que le développement scénaristique n'est pas satisfaisant. C'est-à-dire que les événements... se précipite qu'à un cas, y a pas de progression. Il y a des scènes quand même assez réussies. On peut pas dire que Curry Barker ne s'est pas généré un sentiment de malaise, voire même parfois de peur, mais dans l'ensemble, quand même, je trouve que le scénario est plutôt mal développé. En plus, c'est un scénario qui emprunte à beaucoup d'autres films qu'on a vus avant. Alors, on pense en particulier à Smile. Ça, c'est quand même très embêtant. On pense aussi à un film, alors que peut-être certains ont oublié, c'est Burying the Ex, un film de Joe Dante. Dans ce film, le héros veut se débarrasser de sa petite amie trop envahissante. Et il va y arriver de façon, c'est le destin, parce qu'en fait, sa petite amie se fait écraser. Elle se fait écraser par un camion. Mais le problème, c'est que sa petite amie va quand même revenir sous la forme d'une morte vivante, et sa vie va devenir un enfer à nouveau. Donc là aussi, il y a cette dimension de l'amour possessif, de l'amour envahissant. Voilà. Donc c'est pas nouveau. Il y a d'autres problèmes dans le film. Le problème, c'est l'acteur principal. Et qui est une endive. Alors c'est voulu. Le personnage écrit, enfin dans le scénario, ce personnage de jeune homme introverti, qui n'arrive pas à exprimer ses sentiments, mais quand même au bout de 5 minutes, même pas, on a envie de le baffer, quoi. Voilà. Donc je sais pas. Je trouve que ce personnage, je sais pas si c'est l'acteur. Moi, il m'a pas plu du tout. Voilà. On peut pas s'identifier. Mais alors. Peut-être que justement, et c'est peut-être à l'intérêt du film, c'est que d'une certaine façon, le personnage joué par Indy Navarrete, c'est-à-dire le personnage de Nicky, c'est un personnage quelque part effectivement inquiétant, qui fait peur, mais pour lequel on a aussi quelque empathie d'une certaine façon. Et ça, c'est peut-être le plus intéressant du film. Cette actrice, effectivement, elle est phénoménale. Bon, et ça, la prestation est tout à fait remarquable. Il y a aussi des scènes dans ce film qui font penser à un autre film, La Main, des frères Philippou. Et notamment, il y a une séquence une soirée qui se passe avec des jeunes. Ça, bon, je vais pas spoiler, mais moi, ça m'a fait penser aussi à ça. Donc, le film fait penser à beaucoup d'autres films, mais voilà, tout ça, c'est quand même pas très bien écrit. C'est éclairé avec le fion, c'est joué par des endives, à part Indy Navarrete. Et finalement, moi, c'est un film que j'avais vraiment envie d'aimer. Et ben, à l'arrivée, non, je suis sorti de là, j'étais quand même plus que mitigé, quoi. Donc, je comprends pas vraiment l'engouement de la critique pour ce film. Moi, je veux revoir Mondio et Dante. Je préfère revoir éventuellement Liaison Fatale avec Glenn Close. Là, c'était le scénario, les événements, c'était beaucoup plus progressif. Et puis à tel point que lorsqu'on voyait apparaître Glenn Close, on avait vraiment la trouille. Bon, donc là, moi, je suis sorti de la projection un petit peu déçu. Tout en reconnaissant au film certaines qualités, il y a quand même des moments de mise en scène, voilà, et puis l'actrice principale que je trouve assez formidable. Alors Laurent, toi, je pense que t'as un petit peu plus aimé le film que moi.
Oui, quand même, parce que là,
sévère.
Ah oui, un peu sévère, je trouve, quand même, parce que c'est vrai que quand on voit l'ensemble de la production dans le registre, dans le film de genre, en tout cas, je trouve que Obsession ne démérite pas, je dirais, même si on n'est pas on flirte pas avec le chef-d'œuvre, parce que malheureusement dans ce registre-là c'est difficile quand même de faire de la nouveauté et de l'originalité, mais là je trouve que je pense que quand même dans le domaine en tout cas de l'horreur, le Curry Baker réussit l'exploit de signer quand même un conte assez vénéneux, furieusement actuel aussi, et foncièrement intemporel, dans une sorte de proposition cinématographique d'une pureté presque émouvante, je dirais, par moment. C'est ce qui on se rejoint un petit peu sur le fond, je dirais. Alors c'est vrai que à côté de cela, on pense, enfin en tout cas moi j'ai beaucoup pensé sur la plastique et sur je dirais la forme du film, beaucoup à Smile. Il y a quand même des rictus qu'on retrouve, qui n'apporte pas, je dirais, d'originalité au film, loin de là. Mais malgré tout, je trouve le film assez pertinent dans son propos sur les relations hommes-femmes, post-MeToo et que dans sa forme où le malaise en fait se mue peu à peu en effroi. Et donc je trouve que quand même de ce point de vue là le film remplit un petit peu son cahier des charges, si je puis dire. Et donc là pour le coup je dirais que voilà, le film vaut quand même le détour, mais c'est pas non plus je dirais le film d'horreur du siècle, voilà. Mais je pense que quand même par rapport à tout je dirais ce flatras de films que l'on a pu voir ces dernières semaines, je trouve que le par rapport, je pense, au sifflet, hein, qui est quand même une grosse catastrophe. Eh bien, on a quand même le jour et la nuit. Même si ce film-là, je le redis, n'est pas le chef-d'œuvre tant attendu et que voilà, qui est quand même assez plébiscité, ça et là. Mais quand même, ça vaut quand même le détour. Donc, franchement. Moi, je vous conseille quand même d'aller le voir. Voilà.
Ouais. Film interdit au moins de 16 ans, tout de même, on précise. Il faudrait qu'il y ait des scènes assez violentes parfois, mais voilà. C'est bien d'avoir deux sons de cloche, finalement. À vous de faire votre propre choix. Voilà. Donc, ça s'appelle Obsession. Hein, c'est le titre français de ce film. Je cherche le titre original, je ne le trouve pas. Voilà. En tout cas, belle découverte, cette actrice Indy Navarrete, que franchement j'ai trouvé excellente.
Oui, au passage, oui, là, par contre, oui.
Elle est vraiment excellente. Voilà, on va changer de registre avec cette fois-ci un film français. On va rester dans l'amour, mais cette fois-ci dans un film beaucoup plus feel good, avec le film de Fabien Gorgeard, C'est quoi l'amour ? Film où l'on retrouve Laure Calamy, Vincent Macaigne et Mélanie Thierrier. Dans ce film, Vincent Macaigne joue le rôle de Fred, qui va demander à son ex-femme Marguerite, des années après leur séparation, d'obtenir la nullité de leur mariage religieux. Alors oui, parce que ça je savais pas, mais c'est vrai, quand on divorce, d'un point de vue administratif, on est bien séparés, mais enfin, annuler un mariage à l'église, c'est un peu plus compliqué.
C'est ce qu'on découvre dans le film. C'est pas une annulation pure et simple. Ah oui. C'est une sorte de mariage avec Dieu, et, oui. Et donc du coup, on ne divorce pas avec lui.
Et voilà.
si on peut être terre à terre.
C'est ça. Alors il faut donc prouver que ce mariage était faussé dès le départ. Voilà, donc c'est Laure Calamy qui joue le rôle de l'ex-femme de Vincent Macaigne, et c'est Mélanie Thierry qui joue le rôle donc de, parce que évidemment il veut se remarier, hein, c'est pour ça qu'il demande l'annulation du mariage religieux. Il veut se remarier avec la superbe Mélanie Thierry qui joue le rôle alors de la bourge. Je dirais pas ultra catho, mais quand même bien catho. Hein, voilà.
Disons que dans la démarche, le fait qu'il faut en fait annuler en fait ce mariage à l'église, c'est que ça démontre que quand même, voilà, il y a quand même, oui, cette nouvelle compagne est quand même ultra catho.
Oui, c'est ça. Puisque en fait, on va pas vous raconter toutes les péripéties, mais enfin, c'est vrai que ça va les emmener jusqu'à Rome, hein, cette histoire.
C'est vrai que là, on va peut-être se concentrer sur les personnages principaux, mais ouais. Moi, je voudrais d'emblée dire, parce qu'on parle du fait qu'il faut annuler ce mariage à l'église, il y a quand même deux personnages, moi, que je trouve quand même assez croustillants. Alors, le premier, c'est Jean-Marc Barr.
Ah oui.
qui est vraiment assez extraordinaire, et c'est assez surprenant quand même, parce que on ne l'attend pas dans ce registre là et l'autre acteur qui me surprend, parce que dans sa filmographie c'est quand même là encore des films relativement sérieux, et en plus de ça on avait l'impression que cet acteur a été en permanence un petit peu coincé quand même, et là je trouve que le film lui va à ravir, parce que on découvre un autre acteur, c'est Grégoire Le Prince Ringuet, qui est très souvent dans un registre, mais alors ultra contraint. On a l'impression que le naturel est toujours contraint chez cet acteur. Et là,
dans un rôle de prêtre. Là,
voilà. Oui.
Mais ça lui va très bien.
Tout à fait.
Alors, ce qui est comme intéressant dans cette histoire, c'est que finalement, on aurait pu croire que l'orque à l'ami, finisse par. On pense un affrontement finalement, que ce soit être un affrontement entre l'orque à l'ami et Mélanie Thierry. Mais en fait, c'est pas vraiment ça qui se passe, Sarkiem. Parce que c'est très compliqué, les sentiments. C'est ce que raconte le film. C'est-à-dire que il y avait une formule, je crois, du réalisateur qui disait que l'amour, on peut pas l'annuler, ça, par contre. C'est-à-dire que et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer aussi dans le film. C'est-à-dire que il y a des sentiments qui se réveillent à un moment donné.
Oui, mais je dirais que c'est tout un parcours. C'est-à-dire que ce n'est pas une simple démarche administrative. Mais je trouve que le film, par contre, et ce qui est peut-être le plus intéressant et qui donne vraiment une grande réussite à ce long métrage, c'est en fait la justesse et la bonne distance pour parler en fait des émotions en fait des différents personnages. Donc c'est une très grande justesse et je dirais que c'est pas facile de parler de l'intime, et à travers cette comédie, eh bien le metteur en scène arrive de façon juste, sans filtre, à nous parler en fait de ce que peuvent vivre en fait les différents personnages, ce couple qui n'est plus couple, hein, parce qu'ils se sont séparés. Et Vincent...
Oui, parce que l'orque à l'ami a refait sa vie, elle est mariée, elle a une fille...
Et donc, Vincent Macken, qui est lui aussi un excellent acteur, qui est vraiment confirmé dans la plupart de ses films, c'est vraiment, là encore, un choix et un acteur relativement rigoureux, en tout cas dans le jeu. L'orque à l'ami, qui est exceptionnel, parce que encore une fois, il y a ce côté un petit peu désinhibé qu'on retrouve chez l'actrice et qui
qu'on aime chez cette actrice,
mais qui est quand même aussi cadrée, parce que elle est pas en roue libre non plus. Donc vraiment, c'est là où on parle vraiment de justesse.
Oui, c'est vrai. Il y a peut-être quand même une séquence. Il y a quand même quelques moments, elle est quand même assez géniale. Mais c'est vrai que du coup, peut-être que c'est le scénario qui veut ça aussi. Peut-être que Mélanie Thierry est peut-être un petit peu moins gâtée par le scénario. Elle est peut-être un peu, existe peut-être un peu moins du coup.
Je dirais qu'elle est un petit peu plus en retrait.
Oui, plus en retrait.
Même si on la voit à l'écran, ça reste. On pourrait dire que ça reste, elle est à la limite en fait entre le personnage secondaire et le personnage principal. Voilà. Oui. C'est en tout cas le film n'est pas focus sur elle, même si elle est indispensable, je dirais, à l'histoire, parce que tout simplement c'est la nouvelle compagne de Vincent Macken. Mais c'est vrai que c'est quand même plus centré sur Vincent Macken et l'orque à l'ami, parce que en fait, au fur et à mesure du film, on voit aussi l'évolution des sentiments. Donc c'est là où en fait il y a quand même vraiment une délicatesse du metteur en scène à mettre en image cette histoire vraiment d'une justesse incroyable. Ouais, franchement, le film m'a vraiment embarqué, parce que on sent vraiment, on a l'impression que c'est presque autobiographique, tellement il y a une vérité qui est criante dans le film.
En tout cas, c'est vrai que ça fonctionne bien. C'est un film choral aussi, parce que il y a aussi des enfants, et puis tout ce monde se retrouve à Rome. Voilà, il y a des. C'est vraiment un film assez formidable. Je trouve que c'est un des meilleurs films qui passe actuellement sur les écrans. C'est une comédie bien écrite, très bien écrite.
Oui.
Finalement, l'amour est pas mal dans les films actuellement, au centre des films actuellement. Hein, le plaisir qui va sur le sujet.
Et je dirais que d'ailleurs, sur le registre de la comédie, il y a aussi, et c'est ce qui fait quand même la réussite d'une comédie, c'est un excellent timing. Et c'est pas toujours évident de l'avoir, même pour quelqu'un d'expérience. Donc franchement, moi je dirais que c'est une très très grande réussite que C'est quoi l'amour ?
Eh bien, allez-y, vous ne serez pas déçus là par contre. Et puis voilà, avec ce très beau casting et l'orque à l'ami, comme on l'aime. Voilà. Alors, eh bien, maintenant, on va évoquer un film totalement différent. Là aussi, on change de pays. Ouais. C'est ça, la magie du cinéma. C'est, on voyage dans l'espace-temps.
Bah, c'est une porte ouverte sur, ouais. Sur le monde qu'on a vécu ou pas, mais sur le passé, sur le présent, sur l'avenir. Voilà,
c'est formidable.
On peut se translater à souhait dans différents univers et dans différentes époques.
Eh bien, nous allons donc nous translater en Italie au XVIIIe siècle, l'Ospedale della Pietà, établissement qui accueille des jeunes orphelines. Et dans cet établissement qui a fonctionné pendant 600 ans, a accueilli des enfants abandonnés et notamment des jeunes filles. Et dans cet établissement, il y a un orchestre composé par certaines de ces jeunes filles, voilà, qui maîtrisent le violon, la musique, et qui donne des concerts, mais on ne les voit pas en fait, hein, parce qu'elles sont masquées, ou alors elles sont en retrait dans la chapelle où elles jouent. Et elles, à un moment donné, l'Ospedale della Pietà, ça se passe à Venise, hein, va recruter Don Antonio, à savoir Antonio Vivaldi, qui a cherché à cette époque à se caser dans les cours européennes. Il a cherché des protecteurs, des mécènes. Il n'est pas parvenu, donc il est dans une situation financière un peu difficile, et donc il accepte l'offre de l'Ospedale della Pietà pour écrire de la musique et diriger l'orchestre de ces jeunes orphelines, la formation de ces jeunes orphelines dans cet hôpital, entre guillemets. Et donc c'est inspiré d'une histoire vraie, parce qu'en effet, Vivaldi va rester à l'Ospedale della Pietà pendant une quarantaine d'années. Et il va écrire, voilà, énormément d'œuvres. Et ce qu'il faut quand même, quand on pense à Vivaldi d'ailleurs, qui est aujourd'hui une star de la musique classique, c'est qu'il est mort dans la pauvreté absolue. Il a été enterré dans une fosse commune, et ce n'est que par hasard qu'on a retrouvé ses partitions, et qu'aujourd'hui, voilà, c'est un incontournable de la musique, Vivaldi. Bon, à l'époque, quand même, on voit qu'il a quand même du succès, et voilà. Et le film, une partie du charme du film tient évidemment à la figure de Vivaldi, à sa musique qu'on entend, évidemment, et ça c'est formidable. Et puis donc, une relation va se nouer entre Vivaldi et l'une de ces jeunes femmes, d'où le titre français du film, Vivaldi et moi, parce qu'en fait le titre original, le titre italien, c'est Primavera, c'est-à-dire le printemps. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une séquence effectivement dans le film où c'est le printemps, où les jeunes femmes se promènent dans la nature, et Vivaldi se promène sous les frondaisons, et là il entend les sons de la nature, et on se doute bien que évidemment c'est là qu'il a l'idée d'écrire les quatre saisons. Voilà, donc il y a cette relation entre cette jeune femme, alors dont le nom m'échappe, je crois qu'elle s'appelle Cécilia, et qui n'aspire qu'à une chose, c'est la liberté, finalement. D'abord, dans un premier temps, elle n'aspire qu'à jouer la musique de Vivaldi et continuer dans la musique. Mais en fait, les jeunes femmes, ces orphelines, en fait, étaient promises à un autre avenir. C'est-à-dire que la plupart du temps, elles étaient en quelque sorte mariées à des hommes, des hommes riches, des bourgeois, des aristocrates. Donc elles étaient casées comme ça. C'est-à-dire que voilà. Et elle, justement, elle est promise à un homme, mais qui est à la guerre. Alors cet homme est interprété d'ailleurs par Stefano Accorsi dans le film. Et bon, Vivaldi, mais oui, mais la guerre, on ne sait jamais quand ça s'arrête. Le problème, c'est qu'elle s'arrête. Et donc Cécilia sait qu'elle va devoir quitter l'orphelinat, et qu'elle va devoir abandonner la musique, elle ne pourra plus jouer la musique, et voilà. Donc c'est un enjeu important du film. On va pas spoiler, on va pas dire ce qui va se passer après, mais voilà, il y a cette relation assez forte, qui est une relation qui est peut-être platonique, amoureuse. Peut-être qu'il y a vraiment un sentiment amoureux qui naît entre Vivaldi, du moins c'est ce qu'on peut peut-être supposer, ou qu'on a, peut-être ce qu'on a envie, hein, parce qu'on projette des choses. Voilà, ça je sais pas si... Je crois que c'est quand même un peu inventé par le scénario. Je ne sais pas si dans la, réellement dans la vie de Vivaldi, il y a eu cette histoire. Ça, c'est peut-être la fiction, hein, la part de fiction du film. Et alors, tout ça, c'est filmé merveilleusement par... je reprends le nom du réalisateur, Damiano Micheletto, qui apparemment est un quelqu'un qui met en scène des opéras. Donc, c'est un esthète. Et ça se voit. Il y a une très belle photo. Ça joue beaucoup sur les clairs-obscur. On pense, par exemple, à De La Tour chez nous, Georges De La Tour, hein, dans ses éclairages et la lueur des bougies. Et là, vraiment, c'est vraiment super.
On va dire que dans la forme, le film se détache d'un autre film qui avait été réalisé il y a quelque temps, dont on avait parlé dans Cinéscopie, qui était le film de Margherita Vicario, Gloria. Qui parlait un petit peu de la même chose. Alors là, on était toujours au XVIIIe siècle, mais c'était toujours dans un institut de jeunes filles sans Ignatio, et donc qui abordait le sujet en fait de ces femmes qui jouaient de la musique et pour lesquelles. Eh bien, il y avait un patriarcat tellement fort qu'en fait, elle ne pouvait pas s'affirmer. Mais il y avait déjà des femmes qui composaient. Ça raconte un petit peu leur émancipation, je dirais. Mais c'est vrai que dans la forme, la mise en scène était beaucoup plus terne que dans le film Vivaldi et moi, où en fait c'est une photographie qui est vraiment très stylisée et qui apporte beaucoup, je dirais, à l'œuvre filmique. Donc là, pour le coup, c'est vrai qu'on est quand même un cran au-dessus par rapport au film Gloria. Mmh. Et puis le côté, je dirais, sur le final de Gloria qui était quand même assez anachronique, étant donné que la musique était une musique relativement moderne, je sais pas trop quelle était la démarche en fait de la réalisatrice. Là, pour le coup, on n'est pas du tout dans ce registre-là. On est vraiment sur quelque chose de presque documentaire en fait sur l'émancipation aussi des femmes dans le monde de la musique.
Et alors, il faut dire aussi un mot du casting, parce que tous les acteurs et les actrices sont vraiment remarquables, j'ai trouvé, dans ce film. Notamment, évidemment, les deux rôles principaux, Cecilia et Vivaldi. Alors, l'acteur qui joue Vivaldi, je le trouvais vraiment excellent. Mais il n'y a pas que lui, ils sont vraiment tous très très bons. Et ce qui fait qu'on ressort du film, quand même, avec l'impression d'avoir vu vraiment une... c'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais en tout cas un très bon film. Et on apprend des choses. C'est vrai qu'on entre dans la reconstitution historique et on apprend des choses sur l'Ospedale de l'Epita. Moi, j'ignorais tout ça. Et ça le rend vivant et très actuel. Et ça parle effectivement, comme tu l'as dit aussi, du patriarcat et de ce désir d'émancipation des femmes. Et c'est ce qui rend le film aussi donc actuel. Voilà. Donc en tout cas, Laurent, je crois que tu as aimé. Je pense que
oui, Vivaldi et moi, oui, c'est un excellent film. Moi, j'aime bien en tout cas le domaine musical et en plus, en tout cas, pour ceux qui connaissent l'œuvre, qui n'apprécie pas Vivaldi. En tout cas, moi, je suis assez fan.
Ah bah oui, totalement. Et vraiment, c'est magnifique. Bon, eh bien, voilà un autre film à voir. Si vous n'avez pas déjà fait, allez voir Vivaldi et moi. Alors, on continue avec cette fois-ci un film totalement différent, Sequan Island, réalisé par Vladimir de Fontenay. Alors, ce film, Laurent, qu'en as-tu pensé de quoi ? En tout cas, ça parle Sequan Island, d'ailleurs.
En fait, Sequan Island, c'est très simple. Hein. C'est l'histoire d'un père divorcé, Tom, qui décide d'amener Roy, son fils de 13 ans, vivre une année sur une île isolée de l'Alaska. Et donc, il espère ainsi renouer le lien, parce qu'en fait, cherche Roy, voilà, le fils, et en fait est en garde alternée. On comprend que le père revient pour essayer de retisser les liens du fait qu'il avait un petit peu délaissé son fils, et donc par le il espère que voilà, en lui proposant, on va dire, un voyage d'un an sur une île totalement isolée, hein, loin de tout, eh bien il va pouvoir retisser les liens qu'il n'a pas eu l'occasion de faire pendant les plusieurs années. Donc voilà un petit peu le pitch du film. Alors bien forcément, je vais pas tout vous expliquer et tout spoiler, parce que forcément il y a un twist, hein, dans le film, mais je n'en dirai pas plus. Et donc Sukwan, c'est une île déserte située dans le Grand Nord, et celle sur laquelle Tom, qui est joué par Swan Arlo, alors c'est assez exceptionnel parce que cet acteur, il a joué beaucoup dans de rôles secondaires, et là il y a un frémissement, je dirais, et donc on assiste à cet acteur en acteur principal. Donc en fait,
il me semble qu'il jouait le rôle de principal de petit paysan.
De petit paysan, et aussi récemment d'un autre film extrêmement réussi, c'est La Condition. On l'avait vu dans
Cinematopie,
qui d'ailleurs vient juste de sortir en support physique, et je vous conseille fortement parce que c'est un excellent film. On parlait de l'émancipation féminine, et ben là pour le coup, le film est une grande réussite sur ce thème-là. C'est une sorte d'ermitage qui en fait va durer à deux. Pendant vraiment cette très très longue période, et je vous cache pas que les conditions météo, parce que bon, c'est quand même reculé de tout, il n'y a aucune aide à part éventuellement un avion qui les a déposés et qui participe à quelques visites, mais pas sur l'île en particulier, donc il peut éventuellement se déplacer, et ils ont en fait juste une radio pour éventuellement pouvoir communiquer si le besoin s'en ressentait, pour éventuellement déjà communiquer avec la mère de Roy pour qu'il puisse parler bien sûr à sa maman, et aussi insidieusement on comprend que quand même Tom peut-être est aussi un moyen, en tout cas un espoir qui formule d'essayer peut-être de récupérer aussi son ex-femme. Voilà. Et donc, on va assister à, je dirais, cette progression, cette relation, ces moments d'intimité, mais aussi de difficulté induits par quand même les conditions extrêmes. Hein. Et donc, forcément, en plus, ce sont... Roy, 13 ans, donc forcément, il n'est pas, je dirais, entraîné pour résister à l'aventure extrême. Mais son père non plus. Enfin, on voit que quand même, voilà, c'est quand même assez, je dirais, non professionnel, quoi, assez amateur. Mmh. Et donc forcément, eh bien, on peut penser que voilà, il va y avoir des situations extrêmement extrême, c'est le cas de le dire, et donc du coup, on a peur un petit peu pour eux. Voilà. Je n'en dis pas plus, mais le film par moment apporte quand même son lot de suspense.
Pas un petit peu long comme ça, parce que bon, il n'y a que deux acteurs finalement.
Il n'y a que deux acteurs, mais bon, par moment, voilà, il y a toujours une relance en fait. Donc on n'est pas véritablement surtout que le film fait il flirte avec les deux heures, mais il n'y a pas réellement de longueur parce que on assiste quand même à ce retissage de liens, mais le twist qui vient, c'est peut-être l'aspect je dirais un petit peu maladroit, on le devine quand même à un moment, et donc du coup
on voit des choses venir un peu.
Voilà. Et c'est pas un film d'aventure, hein. C'est un film dramatique. Je peux pas en dire plus, mais franchement, on doit beaucoup à ce film le jeu de Swan Arlo, qui est vraiment toujours assez vraiment juste et rigoureux. On parlait tout à l'heure de Laure Calamy et de Vincent Macaigne. Eh bien, Swann Harlow, c'est toujours, voilà, c'est l'acteur qui quand même est sorti vraiment du cinéma indépendant, et donc là franchement il est tout à fait à l'aise dans ce registre là voilà, c'est parce que c'est pas une très grosse production, loin de là. Donc on est vraiment dans le domaine je dirais du cinéma indépendant quand même, voilà. Donc ça vaut vraiment le détour.
Eh bien, ce soir, vous avez compris, vous pouvez aller voir Squan Island avec Swann Harlow dans le rôle principal, mais également Vivaldi et moi, superbe reconstitution historique, superbe film, ainsi que C'est quoi l'amour avec la pétillante, débordante Laure Calamy, et puis, voilà, peut-être Obsession, voilà, que Laurent a plutôt bien défendu. Moi, personnellement, j'ai été un peu moins emballé, beaucoup moins d'ailleurs, mais bon, à vous de vous décider pour ce film. 22h31, bientôt à la pendule de RTF, eh bien c'est quasiment la fin de notre émission. Est-ce que nous écoutons une petite pause musicale, ou est-ce qu'on évoque les films tout simplement qui vont sortir ce mercredi?
Ah, il y a une petite pause musicale, petite pause. Avec une chanson, voilà, extraite d'un film de 1993, grande réussite. Je vous conseille d'ailleurs de le voir ou de le revoir, ce film. Peut-être que ça pourrait être d'ailleurs un film qui pourrait être, je dirais, à l'occasion d'une soirée. Ça serait bien, parce que je crois que de mémoire, il me semble qu'il n'a jamais été proposé. Film où on retrouvait de très grands acteurs comme Vincent Gallo, Jerry Lewis, Lily Taylor, Paulina Boryskova, Candice Mason, mais aussi Faye Dunaway et Johnny Depp. C'est Arizona Dream, le film réalisé par Emir Kusturica, et donc on écoute la chanson phare, qui est vraiment assez exceptionnelle et qui apporte tout je dirais l'univers un petit peu déjanté du metteur en scène. Allez, tout de suite, Arizona Dream.
To ride around in circles. I know you have got the time. 'Cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. Shit, like, you know, when your hand was down on my dick, it felt quite amazing. And now that that is all over, all we've got is the silence. In the death car, we're alive. In the death car. Play. fat and a little taste of baby's breath makes me forget about death. At your age, you're still joking. It ain't time yet for the choking. So now we can own the movie and know each other truly. In the death car, we're alive. In the death car, we're alive. We're alive. I wanna hear some mandolins.
La musique d'Arizona Dream, Iggy Pop, une des meilleures que sur Isa. Eh bien voilà, il est 22h38 à la pendule de RTF. C'est bientôt l'heure de nous quitter. Cinéscopie, c'est la fin. Mais pas tout à fait, parce que nous allons maintenant vous annoncer les films qui vont sortir sur vos écrans ce mercredi. Et voilà, et je sais déjà qu'il y a un blockbuster qui arrive dans la franchise Star Wars. C'est The Mandalorian and Grogu. Alors ça, c'est un... C'est marrant parce qu'au départ, c'est une série télé, Le Mandalorian. Et qui est plutôt réussi d'ailleurs, et Jon Favreau l'adapte pour le cinéma. Donc c'est un des films qui sort sur nos écrans mercredi. Moi j'y serai parce que j'aime beaucoup le petit gros goût. C'est très très charmant.
Je trouve. Je comprends pas.
Non.
je crois que c'est bon. Ça va être le film qui va réunir quand même pas mal de spectateurs.
Enfin, je pense que ça va marcher.
Ouais, je pense que c'est ouais, prévisible. Je dirais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ? Eh bien, il y a aussi un autre film très attendu. Parce que bon, on a l'habitude maintenant, le réalisateur nous propose quand même assez régulièrement ses dernières réalisations. C'est Pedro Almodovar avec Autofiction. Vous avez peut-être dû voir la bande-annonce.
Ça, c'est intéressant, ça. Je pense que c'est plus ou moins autobiographique. Parce qu'en fait, metteur en scène du film, ouais, c'est lui, c'est son double.
Oui, il y a des il y a des chances. Hein.
C'est comme dans Douleur et Gloire.
Voilà. Donc, on aura l'occasion donc de voir aussi ce film-là. Il y aura aussi un autre film qui s'intitule Vanilla, qui raconte l'histoire de sept femmes à la volonté de fer qui se battent pour sauver leur maison de la saisie hypothécaire. Et donc Roberta, une fillette de 8 ans, évolue dans une dynamique familiale atypique, un foyer sans père, où elle vit entourée de diverses figures féminine.
Bah écoute, le film est précédé d'une réputation flatteuse. Ça semble plutôt pas mal.
Oui. Donc voilà, bah on verra ça. Hein.
Bah oui.
Autre sortie. Allez, ça c'est sorti. Alors je précise quand même, c'est sorti sur Limoges. Hein, c'est pas les sorties nationales. On pourra voir aussi, ça peut être intéressant, en tout cas le film m'intéresse, de Silvio Soldini, c'est La goûteuse d'Hitler.
Ah oui, effectivement, ça a l'air intéressant.
Donc voilà, ça sort là encore mercredi. Et très certainement, bah, je serai dans la salle, hein, si vous voulez.
Si vous voulez des autographes.
Et donc, alors c'est vrai que, bon, il faut bien le dire, hein, c'est quand même le Star Wars qui va engranger. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de sorties ce mercredi. Et n'oublions pas aussi un film d'horreur. Eh ben oui, il faut un petit film d'horreur. Et donc, celui-ci est signé André Overdahl. C'est Passenger.
Ah oui, bah écoute, le metteur en scène est plutôt c'est plutôt un bon.
Ouais.
Alors,
le pitch, rapidement.
Le pitch de Passenger. Ouais.
Après avoir été témoin d'un terrible accident de la route, eh bien, un jeune couple réalise qu'il n'a pas quitté les lieux du drame sans être suivi. Et donc une présence démoniaque, le passenger, se joint à leur voyage en van et transforme leur aventure en un véritable cauchemar, déterminé à ne s'arrêter qu'une fois qu'elle les aura tous les deux emportés.
Dis donc, ça promet, effectivement.
Et bien voilà, c'en est tout pour en fait les sorties qu'on pourra donc découvrir à partir de mercredi.
Très bien, merci Laurent. Donc théoriquement, on se retrouve lundi prochain aux alentours de... Ah non, pas lundi prochain, pardon, c'est lundi de Pentecôte. Et oui, c'est exceptionnellement.
On va faire une petite pause.
Une petite pause. Oui, voilà. Non, effectivement, on se retrouve dans 15 jours, oui, en réalité. Et puis c'est lundi de Pentecôte, effectivement, la semaine prochaine. En attendant, vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute des programmes de RTF. Une très bonne semaine dans les salles de cinéma. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.
Salut, bonne quinzaine. Profitez et allez fréquenter les salles obscures. Il y a vraiment un choix des plus éclectiques. Allez, dans une quinzaine, salut.